Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à votre radio, la RFM, et à votre émission. Le grand jury qui a le plaisir de recevoir Adama Gaye, journaliste consultant international. Adama, vous êtes plus précisément, me dites-vous, conseiller de plusieurs multinationales investissant dans les mines, le pétrole et le gaz. Journaliste sorti du CESTI à Dakar, vous avez poursuivi vos études dans les universités d'Oxford et de Sorbonne, dans les domaines du développement et de la diplomatie. Vous êtes présentement invité à l'université Stanford aux États-Unis en tant que chercheur sur la Chine et l'Afrique. Vous êtes justement auteur d'un ouvrage intitulé « Chine-Afrique, le dragon et l'autruche ». Vous êtes enfin spécialiste du pétrole et du gaz de l'École des relations internationales de Genève. Adama Gaye, vous rentrez d'un voyage du Zimbabwe, grand pays minier, pour le compte d'un fonds d'investissement asiatique intéressé par les perspectives qui s'offrent à ce secteur en Afrique. Le Zimbabwe, c'est la première question. C'est le pays d'un certain Robert Mugabe, un président de la République au pouvoir depuis plus de 30 ans et qui a fêté il y a quelques jours officiellement ses 88 ans. Peut-on comprendre, peut-on même aimer Robert Mugabe et ne pas comprendre un certain Abdoulaye Wade du Sénégal ou le détester si on juge les deux sur la base de leur âge avancé?
Il est effectivement très facile de faire le parallèle entre Robert Mugabe et Abdoulaye Wade en termes d'âge, en termes d'obstination à rester au pouvoir, mais aussi par rapport à la posture que l'un et l'autre, progressivement, plus récemment Abdoulaye Wade, semble observer face à l'Occident. Et je pense que ce qui se passe ici au Sénégal intéresse les Zimbabwéens. Quand j'y étais, au nom d'une société minière, j'ai été frappé par ce qui s'écrivait dans la presse locale, établissant un parallèle entre ce qui se passe au Sénégal et le Zimbabwe, et que probablement les résultats de l'élection ici au Sénégal pourraient avoir un impact sur l'élection présidentielle qui est également prévue en 2012 au Zimbabwe et qui opposerait théoriquement Robert Mugabe au compte de la ZANU-PF et certains de ses opposants, en particulier le premier ministre actuel Morgan Tsvangirai, qui est le responsable d'une des factions principales de l'opposition, le MDC.
Mugabe va encore se présenter?
Absolument.
Il a des chances de gagner?
C'est pas impossible. Il a des chances parce que l'opposition, une fois impliquée au pouvoir, a un peu perdu sa crédibilité par certains errements politiciens et parfois même personnels. Il a des chances de gagner parce que la ZANU-PF reste encore la formation politique qui a donné une légitimité à ce pays. Et enfin, ce que j'ai vu et qui m'a étonné, c'est qu'à la différence de ce qu'on lit souvent dans la presse internationale où l'on présente le Zimbabwe comme un pays en ruine, j'ai plutôt vu un pays qui, bon an mal an, se tient, qui a d'énormes potentiels, probablement les richesses naturelles les plus importantes en matière minière et de plus en plus de perspectives pétrolières, et enfin qui a défini une politique très cohérente en termes d'indigénisation, qui fait que aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise qui vient investir au Zimbabwe étrangère, il lui faut laisser aux populations locales, aux partenaires locaux, 51% et ne se contenter que de 49%. 10% de ces 51% sont donnés comme action aux employés de l'entreprise, 10 autres % aux communautés de base dans lesquelles l'entreprise investit, et 5% sont consentis pour la construction d'un fonds souverain d'investissement pour le pays pour le long terme. J'ai vu une certaine cohérence dans l'approche, une certaine démocratisation de l'économie. J'étais même surpris vraiment
d'avoir vu ça. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que vous avez de la sympathie finalement pour Robert Mugabe? Absolument. Qui de l'extérieur est très mal perçu. Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Je n'ai aucunement une quelconque sympathie pour Mugabe. Je pense qu'il a fait son temps et qu'il lui faut partir. Je souligne simplement que, à la différence de ce qu'on dit dans la presse anglo-saxonne et occidentale de manière générale, le Zimbabwe n'est pas aujourd'hui un pays en faillite ou en ruine. C'est un pays qui est resté solide. J'ai vu des populations qui ont retrouvé leur fierté d'une certaine manière parce qu'elles sont partie prenante de la gestion de l'économie. Alors que les accords de Lancaster de 1980 qui avaient permis l'arrivée de l'indépendance au Zimbabwe prévoyaient que les terres soient mieux redistribuées, que la démocratisation de l'économie puisse se faire. Les Blancs avaient une mainmise très forte sur l'économie nationale. Le fait que cela ait été lancé de façon quelque peu maladroite, parfois politicienne, par Robert Mugabe, a pu être critiqué à juste titre. Mais quant à la substance, au fondement de la nécessité pour les pays africains de reprendre le contrôle de leur économie au moment où tout le monde s'intéresse aux ressources naturelles du continent, je pense que c'est une question de principe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la différence des pays d'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, notamment les francophones qui ne sont pas arrivés à l'indépendance en menant la guerre, dans les pays d'Afrique australe, ce que je vois, c'est une prise de conscience beaucoup plus affirmée qui réalise qu'il y a à nouveau une nouvelle ruée vers le continent africain pour contrôler ses ressources. Notamment, j'ai vu dans un journal local, par exemple, d'Afrique australe, l'ancien président de la Namibie, M. Sam Nujoma, qui disait que, écoutez, c'est une nouvelle guerre qui commence parce qu'il faut arrêter cette offensive de certains acteurs étrangers, notamment occidentaux, pour prendre le contrôle des pays africains.
Parlons du Sénégal d'Abdoulaye Wade, mais avant cela, une petite question préjudicielle. Robert Mugabe égale Abdoulaye Wade?
On ne peut pas dire les choses comme ça. Ce sont des hommes d'un certain âge qui sont des intellectuels, qui sont des politiciens obstinés, comme je disais. La différence, c'est que Mugabe a été le chef de file de la guerre de libération du Zimbabwe. Et d'une certaine manière, on peut toujours dire qu'il est à l'avant-garde de la défense des intérêts du Zimbabwe, même si cela s'assimile aux intérêts de son parti, la ZANU-PF. On ne peut pas dire qu'ils sont pareils. Il y a des différences.
C'est quoi Wade, qu'est-ce qui le caractérise alors?
Wade était arrivé au pouvoir avec un engagement, la promotion de la démocratie. Ce n'est pas le cas de Robert Mugabe. Robert Mugabe, son parti, c'est la ZANU Patriotic Front. Le réveil du patriotisme. Alors que dans le cas d'Abdoulaye Wade, son combat, c'était principalement le changement et la promotion de la démocratie. Est-ce que, en termes de changement ou de promotion de la démocratie, il a fait avancer la démocratie dans notre pays? Je ne le crois pas. De ce point de vue, oui, Abdoulaye Wade a quand même un certain nombre d'aspects négatifs qu'on peut lui coller.
Dans une tribune cette semaine, dans Sud Quotidien, qui a pour titre « Le refus d'un choix », vous écrivez: entre peste et choléra, se pincer le nez et faire un choix. L'allusion au second tour de la présidentielle devant opposer le 25 mars le président sortant Abdoulaye Wade et son premier ministre, son ancien premier ministre Macky Sall. Cette allusion est claire. Pourquoi choisir entre les deux? C'est choisir entre la peste et le choléra.
C'est évident que nous avons aujourd'hui une situation qui n'était pas souhaitable. Nous n'avons pas une alternative très claire, des programmes politiques bien définis, des acteurs au profil assez clair, même si, évidemment, le temps de l'idéologie est quelque part révolu. Aujourd'hui, les deux acteurs qui se retrouvent au deuxième tour sont, d'une certaine manière, des libéraux, entre guillemets, pur jus. M. Sall, même s'il a pu fricoter quelque part avec le mouvement Ndé Diop dans le passé, on l'associe aujourd'hui, c'est en quelque sorte un clone de Abdoulaye Wade qu'il a fabriqué financièrement et politiquement. Donc, aujourd'hui, choisir entre l'un et l'autre, c'est choisir un des acteurs ayant contribué à la situation que, d'une certaine manière, les gens sont appelés à juger le 25 février. Abdoulaye Wade a été en place depuis maintenant 12 ans. Pendant ces 12 ans, Macky Sall a été avec lui associé à la plupart des actions lancées par Abdoulaye Wade en matière de gestion du pays, en matière de choix politiques, en matière d'organisation, dans des conditions assez sulfureuses, pour ne pas dire douteuses, d'élections en 2007. Donc, évidemment, l'un et l'autre partagent le passif et, entre guillemets, l'actif qu'on peut imputer à ce régime.
Alors, vous enchaînez dans un contexte électoral malsain ne méritant pas d'avoir eu lieu. Les Sénégalais sont contraints de devoir, hélas, d'une manière ou d'une autre, prolonger le bail du régime libéral wadien. C'est vous qui êtes dur ou c'est la réalité actuelle qui est trop dure?
C'est la réalité. Ils n'ont pas d'autre option que de choisir l'un ou l'autre, le maître ou l'apprenti. La réalité aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on reproche à Abdoulaye Wade, on peut le reprocher à Macky Sall.
Vous n'exagérez pas?
Non, pas du tout. Il faut regarder les choses quand même. Abdoulaye Wade, on lui reproche d'avoir encouragé une forme de monarchisation dans ce pays, en voulant promouvoir son fils. Quand Macky Sall était à ses côtés, c'est un lapsus qui est assez révélateur, le fait que je dise Macky Wade, hein, le fait que lorsqu'il était à ses côtés, il a défendu l'implication du fils de Abdoulaye Wade dans le régime au plus haut niveau, c'est évident, il y a les faits qui sont là. Deuxièmement, Abdoulaye Wade et lui ont été associés à des activités que l'on peut condamner, des contrats sur lesquels on peut revenir en termes de marché qui ont été passés dans des conditions qui n'ont pas ou toujours été transparentes.
Mais justement, que répondez-vous à Macky Sall, le challenger du président Wade, qui promet une gouvernance vertueuse et sobre en passant par un audit des comptes tout en assumant l'héritage de son ancien mentor?
Mais il faut que lui-même accepte d'abord d'être audité. Partout où il est passé à la société Petrosen, qu'il soit audité lui-même au niveau du ministère de l'énergie, qu'il soit audité au niveau du ministère de l'hydraulique, qu'il soit audité en tant que premier ministre, qu'on audite certaines sociétés et des structures bureaucratiques quelque part qui ont travaillé avec lui, que ce soit la SONES, que ce soit l'ONAS, que ce soit le PCRPE, que ce soit certaines sociétés que je ne veux pas citer ici, privées, qui ont bénéficié de beaucoup de largesse dans des conditions qui n'ont pas toujours été transparentes. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, cette nécessité d'une transparence est une évidence.
Oui, mais c'est ce qu'il dit.
Oui, mais il faut
et
pas.
Il promet une gouvernance vertueuse et sobre.
Mais c'est tant mieux. Mais il faut qu'il s'applique à lui aussi et que surtout pas lui, que les gens lui appliquent également ses recettes. C'est la même chose que Alain Juppé a pu dire à Abdoulaye Wade. Il lui a dit, écoutez, Monsieur Wade, les conseils que vous avez donnés à Gaddafi, à Benghazi, il faudrait que vous-même vous les appliquiez en matière de promotion de la démocratie dans votre propre pays. Donc, je pense que si M. Macky Sall parle de bonne gouvernance et de transparence, parfait. Mais il faut qu'il n'y ait pas de limite. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est nécessaire.
Mais il précise qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières.
Ah, mais vous savez, ça devient problématique. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal ne pourra pas reprendre un nouveau départ, un envol solide, si on ne remet pas sur la table toutes les cartes, qu'on ne pose pas, qu'on ne fasse pas d'une certaine manière l'analyse de ce qui s'est passé ces dernières années. Et vouloir fermer les yeux sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années en matière de mauvaise gouvernance, de transhumance politique, de détournement des deniers publics, de marché amplifié, de structures créées parallèles pour s'enrichir, de fonds qui ont disparu comme ça, ou en tout cas qui ont été utilisés dans des conditions assez problématiques comme les fonds de Taïwan, ça pose problème. Je pense que s'il veut aller au bout, il faut qu'il aille jusqu'au bout de cette logique qui fait qu'il n'y aura pas de limites, y compris la nécessité de faire une reddition des comptes pour qu'on sache qui a fait quoi. Je pense que c'est parce qu'en l'an 2000, Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en fermant les yeux sur ce qu'il aurait pu imputer comme négatif au régime de Abdou Diouf qu'il a commencé lui-même à s'ouvrir à des transhumants, à accepter un certain nombre de choses qui, à l'arrivée, l'ont lui-même plombé. Et si Macky Sall commence à le faire, ben on verra. Tout ce qui est déchet de ce régime de Wade pourra aller chez lui et pourra continuer avec les moyens financiers acquis dans des conditions douteuses de perturber, pour ne pas dire torpiller la démocratie dans ce pays.
Alors, dans ces deux tableaux, tableau Abdoulaye Wade, tableau Macky Sall que vous décrivez, qui est la peste, qui est le choléra?
Ah, vous me posez une colle. Disons, je laisse aux éditeurs et à vous-même le soin de donner une étiquette à l'un ou l'autre. Je les mets sur un pied d'égalité, c'est ce qu'on doit dire.
Alors, vous dites, je ne parviens pas à comprendre que les leçons infligées par Abdoulaye Wade n'aient pas rendu nos compatriotes plus exigeants. Vous parlez des Sénégalais, c'est ce que vous écrivez encore. Pourquoi vous le dites?
Mais parce que les Sénégalais devraient aujourd'hui, même au pied du précipice, s'arrêter et se dire, attention, il n'y a pas de raison de se précipiter, en particulier les leaders de l'opposition, pour donner une carte blanche à qui que ce soit. Vous savez, cette culture de ce qu'on appelle en anglais du appeasement, le fait qu'on puisse fermer les yeux sur une situation que l'on sait assez problématique. C'est ça qui a conduit le monde à des situations dramatiques. Si vous regardez l'histoire en 1938, quand Neville Chamberlain, le premier ministre britannique de l'époque, Édouard Daladier, premier ministre français de l'époque, et Benito Mussolini, qui fut par la suite l'allié de Hitler, sont allés à Munich pour parler avec lui, tous sont allés dans le sens de ce que voulait Hitler. Les questions centrales, fondamentales, n'avaient pas été posées. Le résultat des courses, le monde a continué à croire que Hitler allait s'arrêter. Et même le magazine Time, le grand magazine, avait fini par lui donner le titre d'homme de l'année. Le 2 janvier 1939, au titre de l'année 1938. Mmh. Le résultat, on a vu les conséquences. La même chose s'est passée également au Sénégal. En l'an 2000, quand Abdoulaye Wade arrivait au pouvoir, à un moment donné, les Sénégalais commençaient à dire « Mon fils, c'est le dernier recours. » On ferme les yeux sur tout ce qu'on peut lui reprocher, y compris certains actes, entre guillemets, criminels que certains subordonnés pouvaient lui être imputés. Tout cela, on avait fermé les yeux. Son intérêt effréné pour l'argent, les gens commençaient à fermer les yeux là-dessus. Certaines de ses pratiques autocratiques révélées par certains de ses proches, dont Ousmane Gom, ont fermé les yeux là-dessus. Et plus tard, aujourd'hui, les Sénégalais commencent à dire, écoutez, on s'est trompé. On ne doit pas reprendre la même erreur en disant parce que Abdoulaye Wade, on en a assez, il faut qu'on suive Macky Sall. Non. Je n'adhère pas à cette vision des choses.
Je vais vous citer encore un autre extrait de votre article dans Sud Quotidien. Dès l'aube de son arrivée au pouvoir, sa désinvolture, sa gestion solitaire, son goût prononcé pour la capture des biens financiers et matériels de la nation à des fins privées et familiales, mais aussi au service de rapaces adeptes de la démocratie du ventre, autant que sa propension à n'écouter que les larbins, l'audateur et Lascar, avaient indiqué la faillite du projet de changement qualitatif qu'il prétendait porter. Fin de citation. Vous semblez décrire ici tout le mal du régime de Wade. Êtes-vous sûr de ne pas exagérer dans votre présentation des faits et du vécu réel de la majorité des Sénégalais, dont près de 35% a voté pour lui au premier tour?
Ah non, pas du tout. Même Abdoulaye Wade, j'en suis convaincu au fond de lui-même, est conscient qu'il a été piégé par cette gang d'individus qui sont allés autour de lui pour tirer profit de sa popularité et quelque part, entre guillemets, de sa générosité mal placée parce que les biens revenaient à l'État du Sénégal. En tout cas, quelque part, cet État néo-patrimonial, prébandier et prédateur qui a été mis en place sous sa gouverne, lui a permis d'entretenir une clientèle. Qu'il en soit arrivé aujourd'hui à 35%, ça peut se comprendre. Mais ne pas oublier qu'en l'an 2007, Abdoulaye Wade avait eu une victoire, entre guillemets, au premier tour. Donc c'est un recul terrible. Je crois avoir vu quelque part qu'il a perdu plus d'un million de voix. Évidemment, les Sénégalais ont des raisons de s'attacher quelque part à Abdoulaye Wade. Depuis 1974, il est dans la tête des gens en termes politiques. C'est un acteur qui est resté là de façon subliminale ou directe. On entend, on lit Abdoulaye Wade. Il a des gens qui le suivent. C'est un politicien assez averti, pour ne pas dire redoutable. Mais à 35%, ce n'est pas le meilleur scénario, lui qui pensait qu'il passerait au premier tour. Je pense que les critiques qui sont portées contre Abdoulaye Wade, ce n'est pas des critiques exagérées, c'est des critiques fondées en raison. Abdoulaye Wade était arrivé dans ce pays pour promouvoir la démocratie en l'an 2000. Aujourd'hui, il gouverne un pays qui a connu des violences comme on n'en a jamais vu dans l'histoire politique, en tout cas récente de ce pays. Il gouverne un pays qui, aux yeux de la communauté internationale, était presque au bord de la guerre civile. Il gouverne un pays que la communauté internationale commence à vouloir, mettre sur le banc des accusés. Un pays où l'on voit des acteurs étrangers qui n'osaient pas s'immiscer à nos activités, commencer à y entrer. Vous voyez, c'est la première fois qu'on a une élection où, entre guillemets, l'Union africaine et l'Union européenne envoient un envoyé spécial pour essayer de jouer le rôle de médiateur.
Absolument.
Et enfin, nous avons un pays où des acteurs de la région, même des acteurs de quantité négligeable, commencent à vouloir jouer un jeu, ou à promouvoir leur carte. Est-ce que du temps de Senghor, même au plus fort de nos tensions avec Sékou Touré, vous avez entendu une seule fois qu'un pays quelconque ou un acteur quelconque de la région a tenté de s'immiscer dans nos activités. Je ne le crois pas. Donc, la démocratie sénégalaise, aujourd'hui, sous Abdoulaye Wade est malade. Nous avons des acteurs politiciens qui ont présenté leur candidature moins pour être élus que pour arriver à tirer les marrons du feu et à vendre quelque part leur exposition sur la scène politique. Et je pense que ce n'est pas de bon augure, comme je le dis dans mon texte.
Se pourrait-il, Adama Gueye, malgré tout ce que vous décrivez en mal sous le régime de Wade, que les Sénégalais se mettent à regretter l'homme après son départ éventuel du pouvoir?
Vous savez, la démocratie n'a jamais été le sésame pour le développement économique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Deuxièmement, les peuples sont souvent amnésiques. Si vous prenez aujourd'hui la France, Jacques Chirac, quand il était aux affaires, on lui reprochait d'être un président d'honneur mille, qui ne prenait aucune initiative forte, qui tentait d'être le plus lisse possible dans sa gestion des affaires du pays. Mais aujourd'hui, il surfe sur la crête des sondages. Abdoulaye Wade compte encore des gens qui le supportent. Il a fait illusion par rapport à certaines infrastructures qu'il a fait avancer dans ce pays. Et d'une certaine manière, si demain il se révèle que quelqu'un le remplace et se trouve sous la coupe de puissance ou d'intérêt étranger, alors là, il y a des chances qu'on commence à se dire, attention, sur Abdoulaye Wade, il y avait quand même un peu de gueule par rapport à une certaine attitude vis-à-vis des acteurs étrangers. Ça, on pourra le dire. Il y a des raisons que certains puissent le regretter absolument. Mais je pense, pour ce qui me concerne, que quand l'étendue des dégâts qu'il a causés sera révélée, je pense que les gens réalistes se rendront compte qu'il a été plus un homme problématique dans la gestion de ce pays que quelqu'un qui doit être regretté.
Dans l'article que je cite depuis un bon moment, vous donnez des raisons qui fondent votre manque de confiance en Macky Sall. Qu'est-ce qui explique cette réserve à son endroit?
Vous voulez dire quoi exactement?
Vous faites allusion à beaucoup d'éléments qui fondent votre manque de confiance.
Je pose des questions. Pose des questions et le devoir d'un intellectuel, le devoir d'un acteur citoyen, le devoir d'un homme politique, c'est de poser des questions légitimes. Comment Macky Sall s'est enrichi?
Qu'est-ce qui vous dit qu'il est riche?
Les gens ont vu dans sa campagne le déploiement d'une fortune dont on ne sait pas d'où elle sort. Deuxièmement, quel programme a-t-il par rapport à la marche de ce pays? Ensuite,
il dit Yonou Yokouté.
Vous savez, c'est un
slogan.
Je vous
donne juste des contre-éléments pour vous permettre.
Oui, mais ça, c'est un slogan.
Pour que vous argumentiez.
Non. Il n'est pas ici de mon rôle de le fusiller. Non, ce n'est pas ici l'ambition. Mais je dis, de façon sereine, la démocratie, c'est la délibération, la discussion. Il faut qu'on puisse avoir argument contre argument. Et donc, je dis, quels sont ces acteurs étrangers dont on dit qui sont derrière lui et qui attendent son arrivée au pouvoir pour faire main basse sur un certain nombre d'infrastructures? On ne peut pas douter qu'il y a aujourd'hui, dans le contexte de l'Afrique, un certain nombre de forces étrangères qui commencent à vouloir pratiquer ce qui fut dans le passé un mercantilisme.
Vous l'affirmez, Macky Sall sous la coupe de forces étrangères.
Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des hommes d'affaires français dont on dit qu'ils sont derrière lui, à tort ou à raison. Mais la question doit être posée. La question de savoir est-ce que des responsables étatiques de la région qui le soutiennent en sous-main, il faut poser la question. Ensuite, la question la plus importante de toutes est celle-ci. A-t-il les capacités pour gouverner un État? On ne doit pas quitter un Abdoulaye Wade qu'on condamne à justice pour se tourner vers un autre acteur et dire c'est lui qu'il faut. Parce que le fait d'occuper ou d'avoir occupé des postes importants sous Abdoulaye Wade n'est pas nécessairement un signe de compétence. Parce qu'avec Abdoulaye Wade, la promotion des élites ou des individus répond davantage à la capacité de ceux qui sont promus à faire montre d'une souplesse d'échine. Ceux qui ont accepté d'aller dans le sens de toutes les dérives du wadisme ont été promus. De là à penser que Macky Sall fait partie de ceux qui ont été promus de cette manière-là.
Ils peuvent dire aussi, nous sommes sortis parce que nous avons refusé un moment
donné. On ne peut pas le dire. Non, on ne peut pas dire les choses. Il ne faut pas de révisionnisme. Il faut rappeler les choses comme elles sont. Macky Sall est parti forcé et contraint. Je pense que le problème de ce pays, c'est que le sentimentalisme prend le dessus et on tend à oublier les choses comme elles se sont passées. Moi, je ne suis pas toujours dans le pays, mais je lis attentivement. Et tant que chaque fois que je viens ici, j'essaie d'avoir le plus possible d'informations. Et je crois savoir que jusqu'au dernier moment, il a négocié, y compris jusqu'à aller à Touba pour avoir l'onction du Khalif des Mourides afin qu'on le laisse à son poste. Évidemment que Abdoulaye Wade ait commis une erreur en essayant encore une fois d'humilier une personne, c'est une évidence. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cela. Mais de là à vouloir absoudre une personne et à lui donner une statue de commandeur qui a été un champion de la résistance, c'est quelque chose que je récuse.
Adama Gaye est l'invité de l'émission Le Grand Jury sur la RFM. Adama Gaye, votre pessimisme, si vous êtes suivi, ne pourrait-il pas aboutir à un non-choix, tout au moins à un fort taux d'abstention comme lors du premier tour, président par défaut qui serait ensuite élu?
Mais c'est l'hypothèse la plus plausible. Le risque
élu
réel.
Élu ou réélu, si nous mettons les deux hypothèses sur la table.
C'est une hypothèse possible et probablement la plus plausible aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est plus plausible?
Le fait que le Sénégal ait un président par défaut et que les questions qui auraient dû être posées n'aient pas été posées. Elles auraient dû être posées avant l'élection au premier tour. Et je suis étonné aussi, surpris même, que dès l'annonce des résultats du premier tour, que l'opposition, entre guillemets, de M23, nonobstant le refus de Macky Sall d'adhérer à la thèse de la non-campagne, se soit mis comme des godillots derrière lui. Je pense que
le M23 qui sera autour de Macky Sall l'après-midi de ce dimanche, justement sur la place de l'Obélisque.
Ce n'est pas rendre service à la démocratie.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2000, la plupart des forces vives, comme on dit, étaient derrière Abdoulaye Wade face à Abdou Diouf.
Oui, ce qui s'est passé en l'an 2000, normalement, devrait servir de leçon parce que le fait d'avoir donné cette carte à Abdoulaye Wade et de s'être retrouvé évincé de la gestion du pouvoir, des engagements qui étaient pris devraient inciter tous ces acteurs de l'opposition à être un peu plus prudents, à mettre en place des termes de négociation beaucoup plus précis que cela n'a été le cas. C'est comme si aujourd'hui nous avons un certain nombre d'individus qui se disent mieux vaut à participer au partage du gâteau. Nous acceptons pour cela qu'il y ait ce qu'on peut appeler en politique, ce que Robert Dahl, l'un des plus grands spécialistes de la science politique, Robert Dahl de l'Université de Yale, appelle la polyarchie, une forme où des voix multiples vont pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est quelque part assez problématique pour un pays qui a besoin de leadership un peu plus affirmé que c'est le cas aujourd'hui.
Oui, je disais tout à l'heure, est-ce que votre réflexion ne pousserait pas les Sénégalais à une situation de non-choix, à un fort taux d'abstention?
Vous savez, aujourd'hui...
C'est comme si vous disiez aux gens, n'allez pas voter.
Non, je ne le dis pas. Ce serait trop prétentieux. Ce n'est pas à moi de le dire. Je fais une analyse, j'offre ma lecture de la situation. Vous savez, nous avons aujourd'hui un monde qui est en crise. La crise du capitalisme, la crise de la démocratie. Et l'un des grands auteurs du 21e siècle, Robert Reich, qui est l'ancien secrétaire d'État au travail sous Bill Clinton, a publié un texte assez remarquable dans le Financial Times où il montre que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a d'un côté les investisseurs, les consommateurs qui ont pris le dessus sur les travailleurs et les citoyens. Son argumentaire est très solide. Et je pense que nous avons aujourd'hui des électeurs qui ne sont pas en possession de tous les éléments d'appréciation pour pouvoir décider. Et c'est là où l'opposition sénégalaise classique, la vieille école, aurait pu jouer un rôle pour donner quand même des instruments pour savoir qui est qui. En l'an 2000, par exemple, si les Sénégalais avaient été informés sur tout ce qu'on reproche à Abdoulaye Wade, y compris sur l'histoire de Maître Babacar Sy, peut-être qu'on aurait connu une autre situation. Mais le fait de vouloir fermer les yeux et de dire, écoutez, on se met derrière lui...
Il y a eu quand même une décision de justice quelques années auparavant qui l'avait blanchi.
Oui, d'accord, mais
même
bon...
Même si après, il y a eu un livre d'un certain Abdelatif Koulibaly, Affaire Mercier, Mort sur commande, qui l'accable, l'accuse, l'enfonce.
Ah, voilà, mais ce travail-là doit être mené par les formations politique et leur devoir d'information des citoyens, au lieu de les laisser sans armes pour se mettre derrière des acteurs politiques et de les adouber pour les amener au pouvoir, ça c'est un problème, je crois.
Vous ne dédouanez pas dans ce qui est arrivé la famille social-démocrate en écrivant que les ténors de la soi-disant opposition classique aient contribué à ce qu'aucune véritable transition en profondeur ne se présente pour les Sénégalais comme l'exige la gravité des défis de l'heure, n'est qu'un pas de plus dans le rôle négatif que la plupart d'entre eux qui ont imposé leur candidature en brisant le mythe superficiel de l'unité qui faisait la force de Benno, d'avoir aussi accepté de recycler tous les voleurs du régime libéral ouadien pour leur donner une nouvelle virginité et une autre bévue que l'histoire se chargera de leur coller demain. Par parenthèse, puisque j'ai fini de vous citer, qui sont les voleurs du régime libéral ouadien qui ont été recyclés?
Ils se reconnaîtront.
Alors, trop facile.
Vous savez, j'aime pas personnaliser un débat. Je pense que en écrivant cela, je sais à peu près qui sont les personnes qui, en l'an 2000, avaient toutes les peines du monde à se payer même le prix d'un car rapide ou d'un appartement de 50 000 francs CFA par mois et qui, aujourd'hui, ont des immeubles au centre-ville, des appartements en Europe, aux États-Unis, ont des comptes bancaires où certains disent qu'il y a des milliards qui sont logés. Voyez-vous, on n'a pas besoin de personnaliser le débat. C'est pourquoi
on parle du Sénégal.
Une reddition des comptes faite de façon transparente permettrait de savoir qui a fait quoi. Par contre, là où le passage où je parle du rôle de la social-démocratie, oui, je peux insister là-dessus.
Oui, que reprochez-vous à l'opposition classique dans le fait que Ouad et Macky soient au deuxième tour? Qu'est-ce que vous leur reprochez?
Ousmane Tanordien, sa candidature était-elle bienvenue?
Je vous renvoie à la question.
Là, j'avais écrit il y a 6 mois ou 1 an un texte où je l'interpellais, où je montrais qu'en l'an 2000, le fait qu'il ait pu polariser autour de sa personne en négatif des critiques contre le régime de Abdou Diouf, puis le fait qu'il ait commencé à prendre un certain nombre d'actes, n'est-ce pas, le soutien à Gbagbo, etc., et que cela semblait être contre-productif pour la promotion de la démocratie. Mais c'était une analyse assez indépendante. Le lendemain ou le surlendemain, je suis surpris de voir une attaque ad hominem instrumentalisée. Et j'ai dit, mais écoutez...
Oui, mais disons une critique c'est pas à grave. Ce que vous veniez d'écrire.
Non, c'est pas normal. Ça ne me gêne pas. Oui. Mais je veux dire, l'histoire aujourd'hui a prouvé qu'il n'aurait pas fallu, n'est-ce pas, aller en rang dispersé. Parce que l'union...
Parce que vous le dites parce que Ousmane Tanordien est arrivé quatrième derrière Moustapha Niass.
Mais c'est le résultat aujourd'hui en politique, ouais, c'est que l'opposition sénégalaise ne se trouve pas au deuxième tour. Voilà.
Mais justement, est-ce que Moustapha Niass, candidat de Benno Siguil Sénégal, n'est pas passé à côté de quelque chose? Parce qu'il est arrivé troisième, eux tous considèrent que Ouad n'est pas candidat. Pourquoi il n'a pas revendiqué une qualification au deuxième tour?
Il aurait pu, il aurait dû. C'est ce refus de réflexion stratégique qui fait que ces hommes, entre guillemets pour lesquels j'ai du respect, que ce soit Ousmane Tanordien, que ce soit Moustapha Niass, que ce soit Ahmad Danse Rouet, à titre personnel. Mais je dis, le résultat c'est que cette opposition, au total, les actes qu'elle a posés ces dernières années, ont débouché sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Elle est aujourd'hui réduite à se mettre derrière les basques de Macky Sall ou peut-être de négocier en catimini avec Abdoulaye Ouad. Est-ce que c'était ça le projet?
Vous y croyez vraiment? Mais les c'est négociations pas impossible. En catimini
c'est pas impossible.
Avec Ouad.
Je vais vous dire une chose. Oui. Abdoulaye Ouad était un homme politique. En l'an 2000, moi je l'ai connu négociant. Il m'avait appelé, moi, personnellement, quand il a voulu négocier avec Abdou Diouf. C'est par là qu'il était passé. Je ne serais pas surpris qu'il négocie à nouveau aujourd'hui avec des acteurs. Il ne va pas laisser quelques possibilités qui peuvent s'offrir à lui, compte tenu de ce que cette bataille-là, c'est une bataille très délicate, difficile. Il va mettre toutes ses forces dans la bataille. Mais la même chose aussi, on peut l'attendre de Macky Sall. D'ailleurs, en politique, on ne dit jamais qu'on doit fermer toutes les portes. On doit parler à tout le monde, même à ses ennemis, je crois.
Nous allons essayer d'évoluer un peu, Adama Gueye, en parlant de Ndigal. consigne de vote, si on traduit cela en français, quelle réflexion vous avez autour d'une Diggle?
Il n'est plus opératoire véritablement. Il est même contre-productif parce qu'un certain nombre d'acteurs qui le font de façon intéressée parce que ça leur rapporte en termes de prébende qu'un Abdoulaye Wade ou un autre candidat peut leur donner, les citoyens sont de plus en plus informés par l'Internet, par les journaux, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas disposés à suivre certains marabouts qui sont là que pour leur intérêt et qui changent de veste dès qu'un vainqueur est annoncé. Donc je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus prudents, parce que le fait que les Sénégalais, très attachés à la religion, leur accordent leur intérêt, ne doit pas être pour eux prise à la légère, quelque chose qu'ils doivent prendre à la légère, parce que ça risque d'avoir un effet boomerang et c'est eux qui risquent de perdre les choses. Et le fait que la religion soit décrédibilisée par ce type de Diggle, ça peut être quelque chose de négatif sur le long terme pour une société qui a besoin de ressorts sociaux, notamment le rôle que les chefs religieux, guides respectés doivent jouer, le rôle que les syndicats, leaders dans les lieux du travail doivent mener, le rôle que la presse et autres, que toutes les institutions d'intermédiation sociale puissent exister de façon crédible, c'est l'un des fondements pour l'affermissement, le renforcement de la démocratie dans des pays comme le nôtre. Je pense que les chefs religieux doivent être très prudents.
Justement, il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous voulez dire que le phénomène de la transhumance existe aussi chez les chefs religieux?
Mais bien sûr que ça existe. Quels sont ceux qui prédisaient à Abdou Diouf sa victoire en l'an 2000? Ce sont eux qui se sont retrouvés derrière Abdoulaye Wade aujourd'hui.
Alors, on va insister sur un point tout bas, parce que vous êtes descendant de par votre mère de Serigne Touba. Une image, jeudi, Abdoulaye Wade qui va à Touba, il est parti voir le calife dans sa retraite à Taoufer, et puis lendemain, vendredi, c'est son challenger Macky Sall qui y va aussi presque dans les mêmes conditions. Et qu'est-ce que vous pensez de cela?
Écoutez, je suis pour une séparation du temporel et du religieux. Le César et Dieu de tout temps, pour une bonne gouvernance de la cité, doivent être séparés. Je ne suis pas, tout en étant affilié à cette famille religieuse, pour ces images qui montrent la République couchée ou accroupie, pour ne pas dire agenouillée, devant les chefs religieux. Ce n'est pas une bonne image que la République doit projeter. Je crois que, même si électoralement c'est porteur, je crois que l'une des réformes que ce pays doit engager à l'avenir, c'est d'éviter ce genre d'image qui reste dans la tête et qui ne rendent ni service aux chefs religieux, ni à la République.
Touba, puisque vous connaissez bien cette famille, comment vous expliquez cet attrait de Touba?
Ben écoutez, c'est quand même... déjà aujourd'hui, pratiquement la deuxième ville en termes démographiques du Sénégal. C'est pendant longtemps une vision, une orientation, en anglais on appelle ça « sense of purpose ». Pendant longtemps, les ouailles, entre guillemets, les talibés, suivent la voie de leur leader. Et c'est pour ça que les hommes politiques, de Senghor à Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, Macky Sall, Landing Savané et tout le reste, vous pouvez les citer, sont souvent allés à Touba pour chercher l'onction. Cela dit, je pense qu'ils ne rendent pas service aux dirigeants religieux. Ces dirigeants religieux sont même coincés aujourd'hui parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas gérer le nombre de talibés qui vivent à leur clocher, de familles qu'ils doivent entretenir. Je crois qu'il faudrait établir de façon transparente les bases d'un rôle à allouer ou à attribuer aux chefs religieux, afin qu'ils ne soient pas obligés parfois, parce que financièrement ils sont un peu à l'étroit, de devoir se mettre au service d'hommes politiques qui viennent simplement pour des intérêts momentanés et qui à terme, hélas, détruisent ce fonds, ce capital social qu'ils incarnent.
Adama Gaye, l'invité du grand jury de la RFM ce dimanche. N'y a-t-il pas, finalement, à ce second tour de l'élection présidentielle au Sénégal, risque d'un développement du communautarisme sur des bases confrériques, voire ethniques?
Mais ça a commencé dans le discours de l'un et l'autre des deux qui restent en lice. On entend cela. L'un s'en va pour dire « Moi, je suis mouride, je ne mettrai jamais le mouridisme sur un pied d'égalité avec une autre confrérie ou religion. » Et un autre qui, selon ce qu'on m'a dit dans la langue poulard, dit que on ne peut pas ne pas reconnaître son appartenance à une communauté ethnique. Je crois que...
Disons, il a répondu à une accusation de son adversaire, Abdoulaye
Wade. Bien sûr. Ce qui fait que l'un et l'autre, aujourd'hui, sont responsables de ce qui peut se passer dans ce pays en termes de renforcement de ses identités. On a vu les dégâts que ça a causé, non seulement en Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi dans les ex-Balkans, où on a vu les identités ethniques, religieuses et autres créer des situations de conflit, du moins les alimenter. Et ça, jusqu'à présent, nous avions pu transcender ça. Parce que comme le disait Senghor, au Sénégal, la nation a précédé l'État. Un sens de la nation existe. La population sénégalaise ne se définissait jamais par rapport à son appartenance ethnique, mais principalement à sa sénégalité. La nation existait et c'était un ciment très fort. Le fait qu'on se réduit aujourd'hui à dire « Nous n'allons pas élire un marabout, un mouri, nous n'allons pas élire un poulard ou nous n'allons pas élire une blanche à la, comme première dame », ces questions-là commencent à être problématiques dans ce pays.
Parfois, c'est même du racisme.
C'est du racisme, ça vole, absolument. Il faut le dire, ça vole très bas. Absolument.
Oui. Alors, puisque l'occasion faisant le larron, nous parlons du religieux, du spirituel et du temporel, il y a un pays que vous fréquentez beaucoup en Afrique, c'est le Nigeria. Il y a un homme très célèbre parce que riche aux as, plein aux as, si vous voulez, Dangote. Il se trouve que Serigne Mansour, si Khalife général des Tidjane, réclame ces terres qui ont été octroyées à Dangote pour un projet industriel. Est-ce que vous avez connaissance de cette affaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dangote, d'ailleurs, qui vient d'être classé première fortune africaine.
Écoutez, je n'ai pas suivi vraiment les détails de cette affaire. Mais je connais Aliko Dangote, je l'ai connu avant qu'on le découvre au Sénégal, avant que les Abdoulaye Wade le connaissent. Je peux dire que c'est un ami. Aliko Dangote, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de la remise du prix CNN Africa Journalist Award qui s'était passé à Nairobi il y a 6 ou 7 ans. Donc on s'était vu, nous avions pris le petit déjeuner. Donc je sais, c'est un homme immensément riche et qui est un investisseur important dans son pays. À l'époque, déjà, il y a 7 ou 8, 9 ans, il ne parlait pas du Sénégal, d'investir au Sénégal.
Mais est-ce que cela justifie qu'on lui donne les terres de Serigne Mansour, si, en tout cas, qui réclame ces terres?
C'est ce sur quoi je veux venir. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est l'absence de transparence. Attirer des investisseurs, c'est très bien, mais vouloir donner par la bande des terres, des contrats, c'est ce que j'ai dit tantôt dans le texte. La gestion désinvolte, solitaire du pouvoir par Abdoulaye Wade, ça a été un problème. C'est que vous ne voyez nulle part au monde un chef d'État qui se lève et dit « Je vous ai donné 600 hectares de terre, je vous ai donné la construction de telle infrastructure. » Ça, c'est ce qu'on peut reprocher à Abdoulaye Wade. Et autour de lui, personne n'est là pour lui dire d'arrêter, de devoir passer par les institutions. Les institutions comme chargé de la surveillance de l'attribution des marchés, d'accepter que les choses se fassent à la régulière, ça c'est un problème. Et j'ai l'impression qu'il se laisse parfois impressionner, pour ne pas dire berner, par ces hommes riches. Voyez-vous, il y a quelques années, quand le prince Al-Walid, l'une des grandes fortunes d'Arabie Saoudite, était venu au Sénégal, on en avait fait tout un pataquès. C'est comme si c'était l'homme le plus riche du monde qui arrivait au Sénégal et qu'elle allait enrichir le Sénégal. Dangote, la même chose aussi s'applique à lui. Il faut, même s'il s'intéresse au Sénégal, lui appliquer les règles, les normes de transparence, y compris les normes environnementales, parce que je crois savoir, par rapport à ce projet dont vous parlez, que la construction de la cimenterie en question dans la région de Thiès ne répond pas à toutes les normes environnementales. Donc, je pense que le fait de se laisser impressionner par des gens qui disent qu'ils sont multimilliardaires, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons eu un pays qui a fonctionné sans être ébloui par des fortunes individuelles comme ça, dont parfois l'origine n'est pas toujours la plus transparente.
Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, en tout cas jusqu'à l'organisation de ce second tour, on verra s'il sera réélu ou battu. Abdoulaye Wade donc et son fils Karim peuvent-ils réellement être poursuivis pour bien mal acquis, comme cela se suffit en France?
Mais qu'ils soient poursuivis post-gestion du pays, ça me gêne. Parce que les gens qui commencent à sortir ce type d'accusation avaient ces éléments d'information de longue date. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ont l'intention de vouloir placer un homme qu'ils veulent être le leur, qu'ils doivent sortir ces choses-là. C'est aux Sénégalais de sortir ce genre d'accusation et de mener toutes les campagnes nécessaires pour une propre reddition des comptes. Voyez-vous, ces dirigeants, on les a laissés faire n'importe quoi. En tout cas, jusqu'à plus ample informé, jamais on n'a refusé une invitation au G8 à Abdoulaye Wade. Pour cette raison qu'il a pu mal utiliser les ressources du pays. La même chose s'applique à Kadhafi. Donc, je veux dire parfois, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Abdoulaye Wade a commis de graves erreurs. C'est au peuple sénégalais de poser ces questions-là, de créer les conditions, si besoin, de le juger avant de se tourner vers la haie ou les tribunaux français. Parce que ils n'ont pas toujours été dans le sens des intérêts de nos pays. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ce mercantilisme qui s'applique en Côte d'Ivoire, qui s'applique en Libye et dans un certain nombre de pays de la région, s'il s'étend au Sénégal, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays.
Mais de ce point de vue, Wade peut être vu par un nationaliste, par certains. Non, vous ne voyez pas?
Oui, mais le problème, c'est que c'est à géométrie variable. Le fait qu'il s'exprime comme un panafricaniste parfois, qu'il s'exprime comme un nationaliste, que parfois ce soit même un peu désordonné, pour ne pas dire brouillon, c'est ça qui pose problème, parce qu'il n'y a pas une constance dans la vision et dans l'action que Abdoulaye Wade mène.
Alors, Adama Gueye, le Sénégal après le 25 mars, parce que c'est un pays qui va continuer à vivre. Il y a des générations actuelles, mais futures, qui seront aussi là. Comment vous voyez le Sénégal de l'après 25 mars prochain?
Il est à souhaiter que le Sénégal s'inscrivent dans cette logique que certains imaginent d'une renaissance économique du continent africain, parce que l'économie quand même est très importante. Nous avons une économie africaine qui prospère à plus de 6% de taux de croissance selon le Fonds monétaire international. Nous avons des pays qui commencent à attirer des investissements extérieurs. Voyez-vous, l'Afrique était en retard, hein, sur 1 milliard d'habitants, seuls 2% du commerce mondial était fait par l'Afrique. Sur 1,12 milliard de dollars, 12 000 milliards d'investissements directs étrangers, l'Afrique n'en recevait que 5%. Or, on voit une tendance qui commence à se développer et progressivement qui va devenir une tendance lourde d'un intérêt accru vis-à-vis du continent africain. Et je crois que le Sénégal, s'il retrouve son label démocratique, qu'il devienne un pays apaisé, où le dialogue démocratique est engagé en profondeur, je crois que ce pays pourra, au moins en termes économiques, bénéficier de l'attrait qu'il pourra générer. Maintenant, les conditions dans lesquelles l'élection s'est passée, où les questions n'ont pas été posées, où les critiques qui doivent être formulées à l'encontre des acteurs qui veulent diriger ce pays, et du risque qu'il y ait une prolongation du wadisme sans wad, ça me pose problème. Parce que le risque réel d'avoir des transhumants ou des acteurs qui ont été éjectés de ce régime se retrouver aux commandes de ce pays sans en avoir les capacités, ça, c'est risqué pour le Sénégal de ne pas profiter de ce moment historique déterminant qui est celui que l'Afrique s'apprête à vivre. Partout à travers le continent, si vous voyagez, vous entendez un nouveau discours. On vous dit qu'il y a aujourd'hui 60 millions d'Africains de la classe moyenne, selon la banque Standard Chartered, qui dit que ces 60 millions d'Africains ont un revenu annuel de 3 000 $ par an. Ce n'était pas le cas. Vous avez 600 millions d'Africains, plus que l'Europe et les États-Unis, qui ont accès au téléphone portable. Vous avez l'émergence de nouveaux marchés. Vous avez un intérêt accru par rapport à l'Afrique.
Justement, une Afrique, pour son développement, tournée vers elle-même ou tournée vers la Chine, puisque vous en êtes le spécialiste?
L'Afrique ne peut pas vivre en vase clos dans un village planétaire. Aujourd'hui, il faut accepter, comme disait l'ancien ministre britannique Jack Straw, le fait que certains pays, notamment la Chine, existent et vont devenir de plus en plus des acteurs importants. Il faut que l'Afrique s'inscrive dans cette tendance. Vous savez, le continent africain intéresse le monde pour diverses raisons. D'abord, nous avons une démographie très intéressante.
Très jeune.
60% des Africains ont moins de 24 ans. Cette fertilité et ce dynamisme de la jeunesse, c'est un avantage si on compare l'Afrique par rapport à des pays comme le Japon, qui sont frappés par cette question de la gérontocratie. Deuxièmement, nous avons un continent qui profite du boom des ressources, notamment les matières premières. Nous avons un continent qui, aujourd'hui, apparaît comme un marché sérieux, politiquement, qui est pris au sérieux et qui est invité dans les grandes rencontres internationales. Je crois que dans cette dynamique-là, si cette conversation fondamentale autour de la démocratie est menée, autour du pacte national, du pacte social, des normes qui doivent nous gouverner, sans que cela soit pris comme des attaques ad hominem ou personnelles, que cette réflexion soit menée, je pense que ça peut être utile pour nos pays, pour notre pays.
Adama Gaye Abdoulaye Wade Macky Sall, second tour de la présidentielle le 25 mars prochain au Sénégal, entre la peste et le choléra, vous choisissez qui?
Comme je l'ai dit, je ne choisis pas. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Je prends mes distances, je préfère attendre ce que les Sénégalais décideront, parce que ça ne me convient pas par rapport à ce que j'ai vu. J'espère que nous prendrons un nouveau départ. Maintenant, nous avons un choix qui est assez problématique. Nous avons une démocratie compliquée. Nous avons des acteurs qui ne sont pas nécessairement capables de nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge.
Merci à mes auditeurs d'avoir choisi le grand jury. RFM, Adama Gaye, journaliste consultant international, était notre invité.